Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 3. À pas de tortue. Reçu de M. Herman Tidbury, de Chicago, la somme de $300, en paiement de l'amende à laquelle il a été condamné par jugement du 14 mai courant pour infraction à la loi sur les boissons alcooliques. Calais, Maine, le 19 mai 1897. Le greffier Walter Huck. Ainsi, Herman Tidbury avait dû s'exécuter, non sans une longue résistance, continuée jusqu'au 19 mai. Puis, cette somme payée, l'identité du troisième partenaire dûment établie, la preuve faite que c'était bien M. et Mme Tidbury qui voyageaient sous le nom de M. et Mme Field, le juge R.T. Hordak, après 3 jours de prison, avait remis le reste de la peine. Il était temps. Ce jour-là, 19, à 8 heures du matin, Maître Thornbrock avait joué le 6e coup de dés et avisé l'intéressé par le fil de Calais. Les habitants de cette petite ville, blessés de ce que l'un des partants du match Hyperbonne se fût caché sous un faux nom, ne se montrèrent pas très accueillants et rirent même de sa mésaventure. Enchanté tout d'abord que dans le Maine, Calais eût été le lieu choisi par feu Hyperbonne, il ne pardonnait pas au pavillon bleu de ne point s'être fait connaître dès son arrivée. Il suit de là que son nom véritable, lorsqu'il fut révélé, ne produisit aucune impression. Dès que le gardien lui eut rendu la liberté, Herman Tidbury prit le chemin de l'auberge. Personne ne l'accompagna, personne même ne se détourna sur son passage. Le couple ne tenait pas autrement, d'ailleurs, à ces acclamations de la foule que recherchaient Awist et Kimball, et n'avaient qu'un désir, quitter Calais le plus tôt possible. Il était 9 heures du matin, et il s'en fallait de 3 encore que le moment fût venu de se présenter au bureau du télégraphe. Aussi, devant le thé et les rôtis de leur déjeuner, M. et Mme Tilbury s'occupèrent-ils de mettre leur comptabilité en règle. « Combien avons-nous dépensé depuis notre départ de Chicago ?» demanda l'époux. « $88.37 !» répondit l'épouse. « Tant que cela ?»« Oui, et bien que nous n'ayons pas gaspillé notre argent en route. » À moins d'avoir du sang de Tilbury dans les veines, on aurait pu s'étonner au contraire que les dépenses eussent été réduites à ce point. Il est vrai, cette somme devait être accrue de $300 de l'amende, ce qui portait à un chiffre assez élevé la saignée faite à la caisse tiburienne. Et pourvu que la dépêche que nous allons recevoir de Chicago ne nous oblige pas à partir pour l'autre bout du territoire, soupira M. Tidbury. « Il faudrait cependant s'y résoudre, » déclara formellement Mme Tidbury. « J'aimerais mieux renoncer. »« Encore ?» s'écria l'impérieuse matrone. « Que ce soit la dernière fois, Herman, que tu parles de renoncer à cette chance de gagner $60 millions. » Enfin, les 3 heures s'écoulèrent, et à 12:20, le couple, installé dans la salle du post-office, attendait, et avec quelle impatience, on l'imagine. C'est à peine si une 30 de curieux s'y étaient donné rendez-vous. Quelle différence avec l'empressement dont leurs partenaires furent l'objet à Fort Wheeler, à Austin, à Santa Fe, à Milwaukee, à Key West, devant le guichet des bureaux du télégraphe. Il y a un télégramme pour M. Herman Tidbury de Chicago, dit l'employé. Le personnage ainsi interpellé fut pris de faiblesse au moment où son sort allait se décider. Ses jambes fléchirent, sa langue se paralysa et il ne put répondre. « Présent !» dit Mme Tilbury en secouant son mari qu'elle poussa par les épaules. « Vous êtes bien le destinataire de cette dépêche ?» reprit l'employé. « S'il l'est !» s'écria Mme Tilbury. « Si je le suis !» répondit enfin le troisième partenaire. « Allez le demander au juge Hordak. Cela m'a coûté assez cher pour qu'on ne me chicane pas sur mon identité. » En effet, aucun doute à ce sujet. Le télégramme fut donc remis à Madame Tilbury et ouvert par elle, car la main tremblante de son mari n'aurait pu y parvenir. Et voici ce qu'elle lut d'une voix décroissante qui s'éteignit sans articuler les derniers mots. « Hermann Tilbury, point de 2 par 1 et 1, Great Salt Lake City, Utah, Thornbrook. » Le couple défaillit au milieu des railleries peu contenues de l'assistance, et il fallut l'asseoir sur un des bancs de la salle. La première fois, par 1 et 1, envoyé à la deuxième case au fond du Maine, la seconde fois encore par 1 et 1, envoyé à la quatrième case en plein Utah, 4 points en 2 coups, et pour comble, après avoir été de Chicago à l'extrémité de l'Union, aller presque à l'autre extrémité dans l'Ouest. Passé ces quelques moments de faiblesse très compréhensibles, on l'avouera, Madame Tilbury se ressaisit, redevint la virago résolue qui dominait le ménage, prit son mari par le bras et l'entraîna vers l'auberge de Sandy Bar. Non, la malchance était vraiment trop prononcée. Quelle avance avaient déjà les autres partenaires? Tom Quebb, Max Real, Awiste Kimball, Lissy Wag, sans parler du Commodore Hurricane. Ils filaient comme des lièvres et les Tilbury marchaient comme des tortues. Aux milliers de milles parcourus entre Chicago et Calais, il faudrait maintenant ajouter les 2 200 qui séparent Calais de Great Salt Lake City. Enfin, si les Tilbury ne se résignaient pas à abandonner le match, il convenait de ne point s'attarder à Calais, quitte à prendre quelques jours de repos à Chicago, le délai pour se rendre à l'Utah s'étendant du 19 mai au 2 juin. Et comme Madame Tilbury n'entendait pas renoncer à la partie, le couple quitta Calais le jour même, par le premier train, accompagné de tous les vœux que la population faisait pour leurs concurrents. Après une telle déveine, la côte du troisième partenaire, s'il en avait une toutefois, allait certainement tomber à un taux dérisoire. Le pavillon bleu ne serait même plus ni classé ni placé. L'infortuné couple n'eut pas d'ailleurs à se préoccuper de l'itinéraire, tout indiqué, qui consistait à reprendre celui qu'il avait suivi jusqu'au Maine. Arrivé à Chicago, il aurait à sa disposition les trains de l'Union Pacifique qui, par Omaha, Granger et Ogden, atteignent la capitale de l'Utah. Dans l'après-midi, la petite ville fut débarrassée de la présence de ces gens peu sympathiques qui y avaient fait triste figure. On espérait bien que les hasards du noble jeu des États-Unis d'Amérique ne les ramèneraient point. Espoir qu'ils partageaient eux-mêmes, on peut le croire. À 48 heures de là, les Tilbury débarquèrent à Chicago, passablement éreintés, il faut en convenir, à la suite de ces déplacements que leur âge et leurs habitudes ne comportaient guère. Ils durent même séjourner quelques jours dans leur maison de Hobey Street. M. Tilbury fut pris en route d'une attaque de ses rhumatismes de quinquagénaire, qu'il traitait d'ordinaire par le mépris, sorte de traitement économique, très en rapport avec sa ladrerie originelle. La vérité est que ses jambes lui refusèrent tout service, et que de la gare on dut le transporter jusque chez lui. Il va de soi que les journaux annoncèrent son arrivée. Les reporters du Staatszeitung, favorables à sa cause, lui rendirent visite. Mais, en le voyant dans un tel état, ils durent l'abandonner à sa mauvaise chance, et les agences ne lui trouvèrent plus preneur, pas même à 7 contre 1. Toutefois, on comptait 100 quêtes Tilbury, cette maîtresse-femme, et elle le fit bien voir. Ce ne fut pas par l'indifférence qu'elle traita les rhumatismes de son mari, ce fut par la violence. Aidée de son dragon de servante, elle frotta le rhumatisant avec tant de vigueur qu'il faillit y laisser la peau de ses jambes. Jamais âne ou cheval ne fut étrié de cette façon. Inutile d'ajouter que ni docteur ni pharmacien n'eurent à intervenir, et peut-être le patient ne s'en trouva-t-il que mieux. Bref, le retard ne fut que de 4 jours. Le 23, les dispositions étaient prises en vue de la continuation du voyage. Il y eut lieu de tirer de la caisse quelques milliers de dollars papier, et le 24, dès le matin, le mari et la femme se remirent en route, ayant tout le temps nécessaire pour atteindre la capitale mormone. En effet, le Wellwood relie directement Chicago à Omaha. Puis, à partir de ce point, l'Union Pacifique aboutit à Ogden, et sous le nom de Southern Pacific, étend sa ligne jusqu'à San Francisco. Et à tout prendre, il était heureux que les époux Tidbury n'eussent pas été expédiés en Californie, car le voyage se fut allongé d'un millier de milles. C'est dans l'après-midi du 28 qu'ils arrivèrent à Ogden, importante station qu'un embranchement met en communication avec Great Salt Lake City. Là se produisit une rencontre. Non pas entre deux trains, on se hâte de le dire, mais entre deux des partenaires, rencontre qui devait avoir de singulières conséquences. Dans cet après-midi, Max Réal, retour de sa visite au parc national, venait de rentrer à Ogden. De là, il se rendrait le lendemain 29 à Cheyenne afin d'y recevoir le résultat de son 3e coup de dé. Or, en arpentant le quai de la gare, voici qu'il se trouva face à face avec ce Tidbury, en compagnie duquel il avait suivi le cortège de William J. Hyperbone et figuré sur la scène de l'auditorium pendant la lecture du testament de l'excentrique défunt. Cette fois, le couple s'était bien gardé de voyager sous un nom d'emprunt. Il ne voulait pas s'exposer de nouveau aux inconvénients dont il avait été victime à Calais. S'il s'était dispensé de se faire connaître pendant le parcours, il ne manquerait pas de s'inscrire sous son nom véritable à un hôtel de Great Salt Lake City. Inutile, n'est-ce pas, de révéler en route cette situation de futur héritier de 300 millions. Ce serait assez de le dire dans la capitale de l'Utah. Et là, si on prétendait l'exploiter, M. Tidbury saurait se défendre. Que l'on juge donc de la désagréable surprise qu'éprouva le pavillon bleu, lorsque, devant un certain nombre de personnes descendues du train, il s'entendit interpeller de la sorte par le pavillon violet. « Si je ne me trompe, c'est bien un monsieur Herman Tidbury de Chicago, mon concurrent dans le match Hyperbone, que j'ai l'honneur de parler. » Le couple tressaillit à l'unisson. Visiblement ennuyé d'être signalé à l'attention du public, M. Tidbury se retourna et ne parut pas se souvenir d'avoir jamais vu l'importun, bien qu'il l'eût parfaitement reconnu d'ailleurs. « Je ne sais, monsieur, » répondit-il. « Est-ce à moi, par hasard, que vous vous adressez ?»« Pardon, » reprit le jeune peintre, « il n'est pas possible que je me trompe. Nous étions ensemble aux fameuses obsèques, à Chicago. Max Réal, le premier partant. » Max Réal, répliqua Madame Tidbury, comme si elle entendait prononcer ce nom pour la première fois. Max Réal, qui commençait à s'impatienter, dit alors « Ah, ça, monsieur, êtes-vous ou n'êtes-vous pas Monsieur Herman Tidbury de Chicago ?»« Mais, monsieur, lui fut-il aigrement répondu, de quel droit vous permettez-vous de m'interroger ?»« C'est ainsi que vous le prenez ?» dit Max Réal en renfonçant son chapeau sur sa tête. « Vous ne voulez pas être Monsieur Tidbury, l'un des 7 expédiés d'abord au Maine et ensuite à l'Utah. Soit, cela vous regarde. Quant à moi, je suis Max Réal, qui revient du Kansas et du Wyoming. Et là-dessus, bonsoir. » Puis, comme le départ pour Cheyenne allait s'effectuer à l'instant, il s'élança dans un des wagons, avec Tommy, laissant le couple interdit de l'aventure et maudissant ses propres ariens qu'on appelle des artistes. À ce moment, un homme qui avait suivi cette petite scène, non sans un évident intérêt, s'approcha. Cet individu, mis avec une certaine recherche, âgé d'une quarantaine d'années, montrait une physionomie franche et ne pouvait inspirer que de la confiance, même aux gens les plus soupçonneux. « Voilà, » dit-il en s'inclinant devant Madame Tilbury, « un impertinent personnage et qui aurait eu droit à une bonne correction pour son insolence. Et si je n'avais pas craint de me mêler de ce qui ne me regardait pas... » « Je vous remercie, monsieur, » répondit Monsieur Tilbury, flatté de voir un homme si distingué venir à sa défense. « Mais, » reprit l'homme si distingué, « est-ce réellement Max Réal, votre partenaire ?»«
Oui, je crois,
en effet, » répliqua Monsieur Tilbury, « quoique je le connaisse à peine. »«
Eh bien, » ajouta le voyageur, « je lui souhaite tous les désagréments possibles pour avoir parlé avec ce sans-gêne à des personnes infiniment respectables.
Et à vous, monsieur, de le battre dans cette partie. Lui et les autres, s'entend. »
Il eût fallu avoir l'esprit mal tourné pour ne pas faire bon accueil aux avances d'un homme de tant de politesse, et même de tant d'obséquiosité. Un gentleman qui s'intéressait à ce point au succès de monsieur et de madame Tilbury.
Qui était ce personnage?
Monsieur Robert Ingley, de Great Salt Lake City, et qui se disposait à y revenir le jour même. Un courtier de commerce des plus répandus, qui connaissait à fond la province pour l'avoir parcouru pendant nombre d'années. Aussi, après avoir décliné ses noms et professions, s'offrit-il très galamment à piloter les époux Tilbury, se chargeant de trouver un hôtel à leur convenance.
Comment refuser les services de monsieur Robert Inglis, lequel déclara d'ailleurs avoir engagé une très forte somme sur les chances du troisième partenaire. Il prit les menus bagages de madame Tilbury et les déposa dans un des wagons du train qui allait quitter Ogden. Monsieur Tilbury se montrait particulièrement touché, surtout de ce que monsieur Robert Inglis eût traité Max Réal comme le méritait ce polisson. En outre, il ne pouvait que se féliciter d'avoir rencontré un compagnon de voyage si aimable, qui lui servirait de guide dans la capitale de l'Utah. Tout était donc pour le mieux. Les voyageurs montèrent en wagon, et on peut affirmer que jamais le temps ne passa pour eux aussi vite que durant ce parcours, qui ne comptait qu'une cinquantaine de milles. Monsieur Inglis fut aussi intéressant qu'intarissable. Ce qui parut plaire à l'excellente dame, c'est qu'il était le 43e enfant d'un ménage mormon, bien entendu avant que la polygamie eût été interdite par décret du président des États-Unis. Et cela ne saurait étonner, puisque l'apôtre Heber Kimball, premier conseiller de l'Église, était mort en laissant 13 femmes et 54 enfants. Il faut espérer que si le chroniqueur de la tribune, Awis T. Kimball, est jamais astreint à se transporter dans l'Utah, il ne prendra pas exemple sur son homonyme. Au surplus, les deux noms ne s'écrivent pas de la même manière, et en outre, il n'est plus permis à Great Salt Lake City d'être polygame. Fût-on un des fidèles du Coran? Si cette conversation plut au Tilbury, ce fut surtout parce qu'il eût été impossible d'imaginer un conteur plus charmant que M. Inglis. Nul doute qu'il regretta le temps où l'Église mormone fonctionnait dans toute sa splendeur. Il vantait l'excellence de cette religion, la meilleure qui fut révélée par l'Esprit de Dieu. Il parla de Joseph Smith, qui se sentit devenir prophète en 1830, qui retrouva les tablettes d'or sur lesquelles étaient inscrites les divines lois du mormonisme, et qui fut assassiné depuis. Il narra l'exode des saints des derniers jours, établi d'abord dans le New York, dans l'Illinois, puis dans l'Ohio, puis dans le Missouri. Et alors, le voilà qui s'étend, en termes émus et dithyrambiques, sur Brigham Young, pape et président de l'Église, lequel, bravant les fatigues, bravant les dangers,
conduisit la communauté sur les territoires voisins du Grand Lac Salé, où il fonda en 1847 la Nouvelle Jérusalem. Et la Cité Sainte ne méritait-elle pas ce nom, comme méritait celui de Jourdain, le cours d'eau sur les bords duquel elle s'élève à une dizaine de milles du lac? C'était les temps prospères, et l'État ne comptait pas moins de 145 000 fidèles, qui se sont réfugiés actuellement, pour le plus grand nombre, sur un territoire concédé par le Mexique. Mais les persécutions s'accrurent, et ce que ne dit pas M. Robert Inglis, c'est que le gouvernement fédéral comprit très bien que l'Utah cherchait plus à se rendre indépendant qu'à vivre dans les pratiques du mormonisme. Aussi, en 1871, le général Grant fit-il emprisonner le pape et les apôtres, replaça l'ancien pays des Utahs sous le joug administratif et en même temps interdit les unions polygames, fussent-elles réduites à la bigamie, au nom de la morale publique. Et aujourd'hui, la nouvelle Sion est maintenue dans l'ordre par le fort Douglas, que le gouvernement fit construire à 3 milles dans l'Est afin de l'obliger à se conformer aux lois de la République nord-américaine. « Ah, mes amis !» s'écria alors Robert Inglis, dont la voix s'attendrit au point de tirer des larmes des yeux de Madame Tilbury. « Si vous aviez connu Brigham Young, notre pape vénéré, avec ses cheveux entoupés, sa barbe grisonnante encadrant les joues et le menton, ses yeux de lynx, et George Smith, cousin du prophète et historien de l'Église, et Hunter, président des évêques, et Orson Hyde, président des 12 apôtres, et Daniel Wells, second conseiller, et Eliza Snow, l'une des femmes spirituelles du pape. « Était-elle jolie ?» demanda Madame Tilbury. « Abominablement laide, madame. Mais qu'est-ce que la beauté chez une femme ?» Et celle à qui s'adressait Robert Inglis eut un petit sourire approbateur. « Quel âge a maintenant le célèbre Brigham Young ?» interrogea M. Tilbury. « Il n'en a plus, puisqu'il est mort. » « Mais s'il vivait, il aurait 102 ans. »« Et vous, monsieur ?» demanda Madame Tilbury avec un peu d'hésitation. « Êtes-vous marié ?»« Moi, chère dame, à quoi bon se marier depuis que la polygamie est défendue ? Une seule femme est plus difficile à conduire que 50. » Et Monsieur Inglis de rire si gaiement de sa répartie que le couple prit largement part à son hilarité. Le territoire que traverse l'embranchement d'Ogden est plat et aride, du sable et de l'argile, mélangé de sels alcalins qui le couvrent d'efflorescences blanchâtres, comme le grand désert dans l'ouest du lac. Il n'y pousse que du thym, de la sauge, du romarin, des bruyères sauvages, et aussi de prodigieuses quantités de tournesols à fleurs jaunes. Vers l'est s'élevaient les cimes lointaines et embrumées des monts Wasatch. Il était 7h30 lorsque le train s'arrêta en gare de Great Salt Lake City. « Une magnifique ville !» avait dit Robert Inglis. Et certainement il ne laisserait pas partir ses nouveaux amis avant qu'ils l'eussent visitée. Une ville de 50 000 habitants. Il exagérait de 5 000. « Une ville magnifique !» encadré à l'aise par de magnifiques montagnes, et que le magnifique Jourdain met en communication avec le magnifique lac Salé. Une ville salubre entre toutes, avec ses maisons, ses cottages entourés de massifs verdoyants, leurs vergers, leurs potagers, plantés de pommiers, pruniers, abricotiers, pêchers, qui donnent les plus beaux fruits du monde. Et en bordure des rues marchandes magnifiques, des édifices bâtis en pierre et d'aspect magnifique. Et ces monuments, magnifiques spécimens de l'architecture mormone. La magnifique présidence où résidait autrefois Brigham Young, le magnifique temple mormon, le magnifique tabernacle, une merveille de charpente, dans lequel 8 000 fidèles pouvaient trouver place. Et autrefois, quelle magnifique cérémonie, le pape et les apôtres sur une estrade magnifique, autour la foule des saints, hommes, femmes, enfants, oh combien, assistant à la lecture de la Bible, écrite de la magnifique main de Mormon lui-même. Enfin, tout magnifique. La vérité est que M. Robert Inglis, par amour pour sa cité natale, se laissait aller à quelque exagération. La ville du Grand Lac Salé ne mérite pas de tels éloges. Elle est trop vaste pour sa population, et si elle possède quelques beautés naturelles, elle n'en montre aucune d'artistique. Quant au fameux tabernacle, ce n'est, à vrai dire, qu'un énorme couvercle de chaudière posé à plat sur le sol. Dans tous les cas, il n'était pas question de visiter Great Salt Lake City ce soir-là. Le plus pressé consistait à faire choix d'un hôtel, et comme M. Tilbury entendait qu'il ne fût pas de prix exorbitant, son guide lui en proposa un en dehors de la ville, Cheap Hotel, autrement dit, hôtel du bon marché. Rien qu'à ce nom, le couple fut séduit et rassuré. Puis, laissant la valise en gare, quitte à venir la rechercher, si Cheap Hotel lui convenait, il suivit M. Inglis, qui avait voulu porter lui-même le sac et la couverture de l'excellente et honorable dame. On descendit vers les bas quartiers de la cité, dont les époux Tilbury ne purent rien voir, car il faisait déjà presque nuit. On atteignit la rive droite d'une rivière que M. Inglis dit être Crescent River, et on chemina pendant environ 3 miles. Peut-être les Tilbury trouvèrent-ils la course un peu longue, mais à la pensée que l'hôtel serait d'autant moins cher qu'il était plus éloigné de la ville, ils ne songèrent point à se plaindre. Enfin, vers 8h30, au milieu d'une obscurité complète, le ciel était chargé, les voyageurs arrivèrent devant une maison dont ils ne purent juger l'apparence. Quelques instants plus tard, l'hôtelier, un gaillard de farouche mine, il faut l'avouer, les introduisait dans une chambre du rez-de-chaussée, blanchie à la chaux, uniquement meublée d'un lit, d'une table et de 2 chaises. Cela leur suffirait, et ils remercièrent M. Inglis, qui prit congé en promettant de revenir le lendemain matin. Très fatigués, M. et Mme Tilbury, après avoir soupé des quelques provisions qui restaient dans le sac de voyage, se mirent au lit. Puis, bientôt endormis côte à côte, tous deux rêvèrent que les pronostics de cet obligeant M. Inglis se réalisaient et que le prochain coup de dé leur faisait gagner 20 cases. Ils se réveillèrent à 8 heures, ayant passé une bonne nuit bien reposante. Ils se levèrent sans hâte, n'ayant rien de mieux à faire que d'attendre leur guide afin de visiter la ville avec lui. Ce n'est pas qu'ils fussent curieux de leur nature, oh non, mais comment refuser les offres de M. Robert Inglis, qui voulait leur montrer les merveilles de la grande cité mormone. À 9 heures, personne. M. et Mme Tilbury, habillés, prêts à partir, regardaient par la fenêtre qui s'ouvrait sur la grande route devant Cheap Hotel. Cette route, leur avait dit la veille leur obligeant cicérone, était l'ancien Emigrant's Road. Elle longeait Crescent River. Là cheminaient autrefois les fourgons chargés de marchandises destinées au campement des pionniers et que conduisait le bullwhacker, le bouvier, alors que l'on mettait plusieurs mois pour aller de New York au territoire de West Union. Cheap Hotel devait être isolé, car en se penchant hors de la fenêtre, M. Tilbury n'apercevait aucune maison, ni sur cette rive, ni sur la rive gauche de la rivière. Rien que le sombre massif des verdoyantes forêts de pins qui s'étageaient sur les flancs d'une haute montagne. À 10 heures, personne encore. Monsieur et Madame Tilbury commencèrent à s'impatienter, et d'ailleurs, la faim se faisait sentir. « Sortons !» dit l'une. « Sortons !» dit l'autre. Et poussant la porte de leur chambre, ils pénétrèrent dans une salle centrale, une vraie salle de cabaret, dont l'entrée donnait sur la route. Là, sur le seuil, se tenaient 2 hommes, mal vêtus, d'aspect peu rassurant, les yeux noyés de gin, et qui semblait garder la porte. « On ne passe pas !» Telle fut l'injonction envoyée d'un ton rude à M. Tilbury.
« Comment on ne passe pas ?»«
Non, sans payer. »«
Payer ?»
Ce mot était évidemment, de toute la langue anglaise, celui qui plaisait le moins à M. Tilbury lorsqu'on le lui adressait.
« Payer ? » répéta-t-il. « Payer pour sortir ? C'est une plaisanterie !»
Mais Mme Tilbury, soudain saisie d'inquiétude, ne prit pas la chose ainsi et demanda
« Combien ?»«
3 000 $ !» Cette voix, elle la reconnut. C'était la voix de Robert Inglis qui parut à l'entrée de l'hôtel. Cependant, M. Tilbury, moins perspicace que sa femme, voulut prendre la chose en riant.
« Hé ! » s'écria-t-il. « Voilà notre ami !»«
En personne !» répondit celui-ci.
« Et toujours de bonne humeur !»«
Toujours !»«
Et vraiment, elle est bien drôle, cette réclamation de 3 000 $ !»«
Que voulez-vous, cher monsieur ?» répondit M. Inglis. « C'est le prix d'une nuit à Cheap Hotel. »«
Vous parlez sérieusement ?» demanda Mme Tilbury qui pâlissait.
« Très sérieusement, madame !»
M. Tilbury, dans un mouvement de colère, voulut s'élancer au dehors. Deux bras vigoureux s'apesantirent sur ses épaules et le clouèrent sur place. Ce Robert Inglis était tout simplement un de ces malfaiteurs, comme il s'en rencontre trop en ces lointaines contrées de l'Union. Gens toujours à l'affût d'occasions qui ne sont pas rares. Plus d'une fois déjà, maint voyageur avait été détroussé par ce prétendu 43e enfant d'un mariage mormon. Aidé de complices tels que les deux individus de cette méchante auberge de Cheap Hotel. Un abominable coupe-gorge, ou tout au moins coupe-bourse. Mis sur une bonne piste, après l'interpellation de Max Real, il avait offert ses services aux époux Tilbury, puis, ayant appris d'eux qu'ils étaient porteurs de 3 000 $, aveu très imprudent, on en conviendra, il les avait conduits à ce cabaret isolé, où il serait entièrement à sa merci. M. Tilbury le comprit, mais trop tard.
« Monsieur, dit-il, j'entends que vous nous laissiez sortir à l'instant. J'ai affaire à la ville. »
« Pas avant le 2 juin, le jour où doit arriver la dépêche, » répondit en souriant M. Inglis,
« et nous ne sommes qu'au 29 mai. »«
Ainsi vous prétendez nous retenir pendant 5 jours ?»«
Et même davantage, et même plus que davantage, »
répondit le gracieux gentleman, « à moins que vous ne me versiez 3 000 $ en bons billets de la banque de Chicago. »
« Misérable ! Je suis poli avec vous !» fit observer M. Inglis. « Veuillez l'être avec moi, monsieur le pavillon bleu !»«
Mais cet argent, c'est tout ce que j'ai !»«
Il sera facile au riche Herman Tilbury d'en faire venir de Chicago autant qu'il lui sera nécessaire. Sa caisse est bien garnie, au riche Herman Tilbury !»
« Remarquez, mon cher hôte, que ces 3 000 $, vous les avez sur vous, et que je pourrais vous les prendre dans votre poche. Mais, par Jonathan, nous ne sommes pas des voleurs. Seulement, ce sont les prix de Cheap Hotel, et vous voudrez bien vous y conformer. »«
Jamais !»«
À votre aise !» Sur ce mot, la porte fut refermée, et les époux restèrent emprisonnés dans la salle basse. Quelle récrimination alors sur ce maudit voyage, sur les tribulations, sans parler des dangers qui s'abattaient sur le couple voyageur. Après l'amende de Calais, le vol de Great Salt Lake City. Et quelle malchance d'avoir rencontré ce bandit d'Inglis.
« Et c'est ce coquin de Réal qui nous vaut cela !» s'écria M. Tilbury.
« Notre nom, nous ne voulions le faire connaître qu'à l'arrivée. » Et le gueule a crié à Ogden, en pleine gare. Et il a fallu que ce brigand fût là pour l'entendre. Que faire ?
Sacrifier les 3 000 $, dit Mme Tilbury.
Jamais ! Jamais !
« Herman !» se contenta de dire l'impérieuse et acariâtre épouse. « D'ailleurs, il faudrait bien en arriver à cette dure extrémité. Lors même que M. Tidbury s'entêterait à ce refus, ses malfaiteurs sauraient le contraindre à s'exécuter. Et s'il voulait lui arracher son argent, puis le précipiter ensuite au fond de Crescent River avec Mme Tidbury, qui s'inquiéterait d'étrangers dont on ne connaissait pas la présence dans la ville. M. Tidbury résista pourtant. Peut-être un secours surviendrait-il, un détachement de milices remontant la route, ou tout au moins quelques passants qui l'appelleraient à l'aide. Vain espoir. Une minute après, tous deux étaient conduits dans une chambre, dont la fenêtre ne s'ouvrait que sur une cour intérieure. Le farouche hôtelier mit alors quelques aliments à leur disposition. Décidément, pour le prix demandé, ce n'était pas trop exigé que d'être, à raison de $1,000 par jour, non seulement couché, mais nourri à Cheap Hotel. 24. 48 heures s'écoulèrent en ces conditions. À quel degré de rage arrivèrent les prisonniers, on ne saurait le dire. Du reste, ils n'eurent même pas l'occasion de revoir M. Inglis, qui se tenait à l'écart par discrétion, sans doute, et pour ne pas paraître exercer de pression sur ses hôtes. Enfin, le 1er juin s'inscrivit sur les calendriers de l'Union. C'était le lendemain, avant midi, que le troisième partenaire devait être de sa personne au bureau du télégraphe de Great Salt Lake City. Faute que sa présence y fût constatée, il perdrait tous ses droits à continuer cette partie si désastreuse jusqu'alors pour les couleurs du pavillon bleu. Eh bien non, M. Tidbury ne voulait pas céder. Il ne céderait pas. Mais, pressé par les délais, Mme Tidbury intervint avec une rage vigueur à l'effet d'imposer sa volonté. À supposer que M. Tidbury, de par le caprice d'aider, eût été envoyé dans l'hôtellerie, dans le labyrinthe, dans le puits, dans la prison, est-ce qu'il n'aurait pas eu à payer des primes doubles et triples? Est-ce qu'il eût hésité à le faire? Non. Eh bien, c'était à tout le moins aussi obligatoire dans les circonstances actuelles, car s'il est bien de tenir à l'argent, il est encore mieux de tenir à la vie. Et leur existence à tous deux, aux mains de ces malfaiteurs, enfin, il fallait payer. M. Tidbury résista jusqu'à 7 heures, dans l'espoir d'un secours providentiel qui ne vint pas. Or, précisément à 7h30, M. Inglis, on ne peut plus aimable et poli, se fit annoncer. « C'est demain le grand jour, » dit-il. « Il serait bon, mon cher hôte, que vous fussiez ce soir à Great Salt Lake City. »« Et qui m'en empêche, si ce n'est vous ?» s'écria M. Tidbury que la colère étouffait. « Moi ?» répondit M. Inglis, toujours souriant. « Mais il suffit que vous soyez décidé à régler votre note. »« Voici, » dit Mme Tidbury en tendant à M. Inglis l'alias de billets que son mari, la mort dans l'âme, lui avait remise. M. Tidbury faillit passer de vie à trépas lorsqu'il vit ce coquin prendre l'alias, compter la somme, et il ne trouva rien à répondre quand ce brigand ajouta « Il est inutile que je vous donne un reçu de cet argent, n'est-il pas vrai ? Mais n'ayez crainte, je l'apporterai à votre compte, mon cher hôte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, avec un sympathique bonsoir, cette bonne chance de gagner les millions du match Hyperbonne. » La porte était libre, et sans en entendre davantage, le couple s'élança au dehors. Il faisait presque nuit, et l'endroit serait difficile à reconnaître. Dès lors, comment désigner à la police le théâtre de cette scène tragicomique? Enfin, le plus pressé était de regagner Great Salt Lake City, dont on apercevait les lumières à 3 miles de là, en amont de Crescent River. Et c'est ainsi qu'une heure après, M. et Mme Tidbury atteignirent la Nouvelle Sion, où ils descendirent dans le premier hôtel venu. Il ne leur coûterait jamais aussi cher que Cheap Hotel.
Le lendemain 2 juin, M. Tilbury se rendit au bureau du shérif afin de déposer sa plainte et demander que les agents se missent à la recherche de Robert Inglis. Peut-être serait-il encore temps de lui reprendre les $3,000. Le shérif, un magistrat très intelligent, reçut avec grand empressement la déposition du volé contre le voleur. Par malheur, M. Tilbury ne put donner que de vagues renseignements sur le cabaret. Il y avait été conduit le soir, il en était parti le soir. Lorsqu'il parla de Cheap Hotel sur les bords de Crescent River, le shérif lui répondit qu'il ne connaissait pas d'hôtel de ce nom et qu'il n'existait même pas de Crescent River dans le pays. Il serait donc bien difficile de mettre la main sur le malfaiteur, qui d'ailleurs devait avoir pris la fuite avec ses complices. Quant à lancer une brigade de détectives à leur trousse en ce pays de bois et de montagnes, cela n'aboutirait à rien. « Vous dites, monsieur Tilbury, demanda le shérif, que cet homme s'appelle Inglis, le misérable, Robert Inglis. Oui, c'est le nom qu'il vous a donné. Mais en y réfléchissant, je ne doute pas qu'il s'agisse du fameux Bill Howell. Je le reconnais à sa manière d'opérer. Il n'en est pas à son coup d'essai. Et vous ne l'avez pas encore arrêté ? S'écria furieusement M. Tilbury. Pas encore, répondit le shérif. Nous n'en sommes qu'à la période de surveillance. Il se fera prendre un jour. Ou l'autre. Il sera bien temps pour moi. Oui, mais il sera temps pour lui, et on l'électrocutera, à moins qu'on ne le pende. Et mon argent, monsieur, mon argent! Que voulez-vous? Il faudrait appréhender ce diable de Bill Howell, et ce n'est pas chose aisée. Tout ce que je puis vous promettre, monsieur Tilbury, c'est de vous envoyer un bout de sa corde, si on le pend. Et, à la condition que la partie ne soit pas terminée, vous serez sûr de la gagner avec un pareil fétiche. » Et ce fut là tout ce que M. Tilbury put obtenir de cet original shérif de la cité mormone. Chapitre 4. Le pavillon vert. Le pavillon vert était celui d'Awiste Kimball, le pavillon que l'on plantait sur les cartes pour marquer son arrivée dans tel ou tel état, et qui avait été attribué au quatrième partenaire, en raison du rang que cette couleur occupe dans le spectre solaire. Le chroniqueur en chef de la tribune s'en montrait très satisfait. N'était-ce pas la couleur de l'espérance? Au reste, il aurait eu mauvaise grâce à se plaindre du sort qui le favorisait comme touriste et comme joueur. Après avoir été, par son premier coup de 12, envoyé au New Mexico, voici que le point de 10 par 4 et 6 lui réservait la 22e case, South Carolina, aux frontières du territoire fédéral, et plus spécialement Charleston, sa métropole. Il n'ignora pas, d'ailleurs, que les parieurs se le disputaient dans les agences, qu'il était demandé sur tous les marchés du monde, pris à 1 contre 9, côte qu'aucun de ses concurrents n'avait jamais atteinte, et partout proclamé grand favori. Heureusement, en quittant Santa Fe, le reporter n'avait point entendu Isidorio, le très pratique conducteur du stage, formuler cette déclaration qu'il ne voudrait pas risquer 25 cents sur ses chances, et il était tout confiant en son étoile. Il avait du 21 mai au 4 juin pour se rendre dans la Caroline méridionale, et comme, à partir de la station de Clifton, le voyage s'effectuerait sans difficulté par les railroads, le temps ne lui manquerait pas. Awiste Kimball quitta donc Santa Fe le 21, et cette fois, il s'en tira avec une bonne gratification, et n'eut point à faire miroiter devant son nouveau conducteur ni des centaines de milles, ni même des centaines de dollars. Il arriva dans la soirée à la station de Clifton, d'où la voie ferrée, après avoir franchi le parallèle qui limite au sud l'état du Colorado, le déposa à Denver, capitale du dit état. Et tel fut le raisonnement que se tint Awiste Kimball,
tel le projet auquel il s'arrêta, sans avoir égard à cette observation que lui avait faite l'honorable maire de Buffalo, qu'il ne s'appartenait pas, mais appartenait au parieur engagé à sa suite. Me voici transporté dans l'une des plus belles provinces de l'Union, les montagnes rocheuses à l'ouest, à l'est, des plaines d'une merveilleuse fertilité, un sol pavé de plomb, d'argent et d'or, à travers lequel le pétrole coule à flot, un territoire où affluent les émigrants attirés par ses richesses naturelles, et les oisifs sollicités par ses luxueuses villes d'eau, la salubrité de son climat, la pureté de son atmosphère. Or, je ne connais pas ce pays superbe, et j'ai l'occasion de le connaître. Puis-je compter que le hasard m'y renverra au cours de la partie? Rien n'est moins sûr. D'autre part, pour gagner South Carolina, j'ai à traverser 3 ou 4 États que j'ai déjà visités. Ils ne m'offriront rien de nouveau. Le mieux est donc de consacrer au Colorado tout le temps dont je puis disposer. Et c'est ce que je vais faire. Pourvu que je sois à Charleston le 4 juin avant midi, je ne vois pas ce que mes partisans auraient à me reprocher. D'ailleurs, je fais ce qui me plaît, et à ceux qui ne seraient pas contents, etc., etc. Et voilà pourquoi, au lieu de continuer son voyage par la ligne qui dessert Oakley, Topeka et Kansas, Aristé Kimball, le 21, fit choix d'un confortable hôtel dans la capitale coloradienne. Il ne passa que 5 jours, jusqu'au 26 ce soir, en cet état. Mais, cela ne surprendra personne, un reporter est capable de faire en un aussi court délai ce que nul autre de ses semblables ne ferait dans le double de temps. C'est une question d'entraînement personnel. Et pour s'en convaincre, il suffira de jeter les yeux sur ses notes de carnet dont Aristé Kimball se servait pour rédiger ses articles envoyés à la tribune. 22 mai. Visité Denver, ville élégante, larges rues ombragées, superbes magasins, comme à New York ou à Philadelphie. Église, banque, théâtre, salle de concert, grand établissement universitaire du Far West, vaste entrepôt, hôtels et restaurations de luxe, café français. Très bien au café français. Denver, fondé en 1858, au confluent du Cherry Creek et de la Platte River. En 1859, il n'y avait encore que 3 fermes. Premier enfant né cette année-là. 20 ans après, 25 000 habitants. Immigration constante. Actuellement, près de 700 000 âmes. Denver, dite ville incomparable, sans rivale. Air de premier choix. Oxygène de première qualité. À 4872 pieds d'altitude. Grande chaîne du Colorado à l'ouest, haute de 7500, toute verdoyante à sa base, toute blanche à sa cime. Autour de la ville, nombreux cottages. Si je gagne la partie, en ferai bâtir un sur les bords de Cherry Creek, endroit charmant pour villégiature. Aurai voitures, chevaux, chiens, domestiques blancs et noirs. Vient d'être bien reçu du gouverneur de l'État, le sénateur Evans. Encouragements et compliments. À parier pour moi grosse somme, et je crois non sans raison. 23 mai. Poussé jusqu'au village minier, devenu ville. Auroria, Golden City, Golden Gate, Oro City, des noms qui sonnent bien, mais moins forts cependant que celui de Leadville, la cité du plomb, dont l'extraction annuelle se chiffre par 71 000 tonnes. Ville récente, trop éloignée pour que je puisse la visiter. 24 mai. Wellwood m'a transporté jusqu'à Pueblo, Colorado méridional, en longeant le pied de la Grande Chaîne, important centre industriel alimenté par les mines de houille et les sources de pétrole. En achèterai 1 ou 2 si gagne la partie. Passé par Colorado Springs, dite la cité des millionnaires, renommée pour ses bains, déjà très fréquentés par malades ou prétendus tels. Vu la fontaine, Rio qui arrose Colorado Springs et va se jeter dans l'Arkansas à Pueblo, et le curieux Monument Park avec ses roches architecturales et son admirable panorama. Colorado tient premier rang aux États-Unis pour la production du plomb, second rang pour la production de l'argent et de l'or, plus de 120 millions par an. 30e rang pour la superficie avec 104 000 miles carrés. 25 mai. Revient de Suisse, de la Suisse américaine, s'entend, dans l'ossature orientale des chaînes du Colorado. C'est aussi beau que le parc national du Wyoming, plus beau peut-être même que la Suisse européenne. Il est vrai, je parle en citoyen des États-Unis. Il y a là des parcs invraisemblables, au nord, au centre, au midi. Quel souvenir je garde du parc de Fairplay, encadré de montagnes majestueuses que le mont Lincoln domine à 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Vu les lacs jumeaux dans une gorge que parcourt l'Arkansas, séparé par une chaussée de moraine, l'un long de 2 milles et demi sur 1 mille et demi de large, l'autre moins étendu de moitié. Aimerais à passer une quinzaine dans le bon hôtel de Dewey, et déjà décidé d'acheter un cottage à Denver, deux houillères au Colorado avec mes futurs millions. Pourquoi économiser le prix d'un chalet sur les bords des Twin Lakes? Aperçu de grands pics en plaine rocheuse, ceux de la Sierra Madre, dans la partie la plus élevée de l'Amérique. Ces rocheuses établies sur une base qui ne mesure pas moins de 375 lieues. C'est à peine si les plus vastes États de l'Europe, sauf la Russie, leur permettraient de s'y asseoir. Véritable échine du North America, et qui, avec toute la poussée orographique de l'Ouest, comprend le quart des États-Unis. Amalgamez les Alpes avec les Pyrénées et le Caucase, et vous n'aurez pas de quoi édifier les rocheuses. Pas eu le temps d'aller au mont de la Sainte-Croix, extrémité nord de la chaîne nationale, ainsi nommé par Hayden et Whitney lors de l'expédition de 1873, mais est pénétré par la porte du Jardin des Dieux, dans le Jardin des Dieux, à 4 miles du Colorado Junction, parc incomparable, dont les blocs semblent les géants pétrifiés d'une famille antédiluvienne, et me suis promené au pied du Teocalli, qui figure une sorte de château de burgrave, bâti à 2500 pieds dans les airs. Il ne faut pas s'attarder pourtant, ni oublier que le gouverneur du Colorado et nombre de ses administrés, j'imagine, ont parié pour moi. Donc, rentré à Denver le 26, et suis allé revoir l'emplacement de mon cottage futur sous de magnifiques ombrages entretenus par les affluents du Cherwickwick. En vérité, Awiste Kimball n'a point exagéré les éloges dus à la capitale du Colorado et à l'État lui-même. Mais que de sang a baigné le sol de ce beau pays! Avant 1867, les pionniers durent lutter contre les Cheyennes, les Arapahoes, les Kiowas, les Comanches, les Apaches, toutes ces farouches tribus de peau rouge, avec des chefs tels que le Chaudron Noir, l'Antilope Blanche, la Main Gauche, le Genou Foulé, le Petit Manteau. Et oubliera-t-on jamais les horribles massacres de Sunquick, qui en 1864 assurèrent aux Blancs la domination du pays sous le colonel Chivington. L'après-midi du 26, le pavillon vert la passa dans la splendide capitale. Une réception fut organisée en son honneur à la résidence. On le sait, aux États-Unis, un homme vaut surtout par sa fortune. Et dans l'esprit des Coloradiens, comme dans le sien d'ailleurs, Awiste Kimball valait 60 millions de dollars. Il se vit donc fêté selon son mérite par ces fastueux Américains qui ont de l'or non seulement dans leur caisse, dans leur poche, dans leur sol, mais jusque dans le nom de leur principale cité. Le lendemain, 27 mai, le quatrième partenaire prit congé du gouverneur au milieu d'un grand concours de partisans qui l'acclamèrent. Le train quitta Denver, atteignit la frontière à Fort Wallace, traversa le Kansas de l'ouest à l'est, puis le Missouri, par sa capitale Jefferson City,
et à la limite orientale, s'arrêta en gare de Saint-Louis le soir du 28. L'intention de Awist et Kimball n'était point de séjourner dans cette grande ville qu'il connaissait, et il espérait bien n'y jamais être envoyé par le sort, puisque, cité de la 52e case, elle occupait la place de la prison dans le noble jeu de loi. Au surplus, les états qu'il devait rencontrer avant son arrivée en South Carolina lui offraient d'attrayantes excursions, Tennessee, Alabama, Georgie. Aussi se proposait-il de choisir un des meilleurs hôtels à Saint-Louis, de consacrer toute la nuit à un repos dont il avait quelques besoins, et de repartir dès l'aube par le premier train. Il ne semblait donc pas que rien dût troubler son voyage, ni l'empêche d'être au jour dit à Charleston. Et cependant, il faillit ne point arriver, et même être mis dans l'impossibilité de jamais voyager, par suite de l'incident dont il va être question et que personne n'aurait pu prévoir. Vers 7h15, Awist et Kimball arpentaient le quai de la gare afin de s'informer de l'heure des trains, lorsque brusquement il se heurta contre ou fut heurté par un individu qui sortait de l'un des bureaux. Aussitôt ses aminités de s'échanger. « Butor ! Brutal ! Regardez donc devant vous ! Et vous derrière !» Enfin de ces mots qui partent comme des balles de revolver, pour peu que les gens soient d'un caractère vif ou d'un tempérament irritable. Or, l'un des deux l'était au plus haut degré, et on ne s'en étonnera pas en apprenant qu'il s'agit de Hodge Hurricane. Awist et Kimball reconnut son concurrent.
« Le commodore ! » s'écria-t-il.
« Le journaliste ! » lui fut-il répondu d'une voix qui semblait s'échapper d'une bouche à feu. C'était bien le commodore Hurricane, sans son fidèle Turk, cette fois, et mieux valait que Turk n'eût pas à se mêler de cette affaire qui l'aurait poussé aux extrêmes. Ainsi donc, non seulement Hodge Hurricane avait survécu au naufrage de la Chicola, mais il avait trouvé l'occasion de quitter Key West. De quelle façon? Dans tous les cas, il fallait que son voyage se fût rapidement effectué, puisqu'il était encore en Floride à la date du 25. Une véritable résurrection, assurément. Et depuis son débarquement à Key West, dans l'état que l'on sait, ses partenaires devaient croire que le match des 7 ne se continuerait plus qu'à 6. Bref, Hodge Hurricane était à Saint-Louis, en chair et en os, ainsi que son concurrent venait de le constater dans la collision, mais d'une humeur encore plus mauvaise que d'habitude. Cela se comprendra. N'était-il pas en route pour la Californie, avec obligation de revenir à Chicago, afin de recommencer la partie après le paiement d'une triple prime? Cependant, Awist et Kimball, en brave garçon, crut devoir se présenter à lui, disant « Tous mes compliments, Commodore Hurricane, car je vois que vous n'êtes pas mort. » « Non, monsieur, pas même de ce choc avec un maladroit et parfaitement capable d'enterrer ceux qui se réjouissaient sans doute de ne plus me revoir. » « C'est pour moi que vous dites cela ?» demanda le reporter en fronçant le sourcil. « Oui, monsieur, » répondit Hodge Hurricane, qui affectait de regarder son adversaire les yeux dans les yeux. « Oui, monsieur le grand favori. » Et il semblait qu'il mâchait ce mot, qu'il le broyait entre ses molaires. Ariste Kimball, peu endurant en somme, et qui commençait à s'échauffer, répondit. « Il paraît que cela ne rend guère poli d'avoir à passer par la Californie pour revenir à Chicago. » C'était toucher le commodore à l'endroit sensible. « Vous m'insultez, monsieur ! » s'écria-t-il. « Entendez-le comme vous voudrez. »« Eh bien, je l'entends mal, et vous me rendrez raison de vos insolences. »« À l'instant, si cela vous convient. »« Oui, si j'avais le temps !» hurla Hodge Hurricane. « Mais je ne l'ai pas. » « Prenez-le. Ce que je vais prendre, c'est ce train qui part et que je ne peux manquer. » En effet, un train tout sifflant, tout empanaché de fumée charbonneuse, allait se mettre en marche. Pas une seconde à perdre.
Aussi, le commodore, s'élançant sur la passerelle entre deux wagons, s'écria-t-il d'une voix terrible
« Monsieur le journaliste, vous recevrez de mes nouvelles. Vous en recevrez. »
« Quand ?»«
Ce soir même, à l'European Hotel. »
« J'y serai, » répondit Harwis T. Kimball. Mais à peine le train était-il parti qu'il fit cette réflexion. « Bon, voilà qu'il s'est trompé, l'animal. Ce n'est pas dans le train d'Omaha qu'il est monté. Il s'en va où il n'a que faire. Après tout, cela le regarde. »
Et de fait, le train en question filait en direction de l'est, précisément celle que Harwis T. Kimball devait suivre pour gagner Charleston. Non, Hodge Hurricane ne s'était pas trompé. Il retournait tout simplement à la station précédente, à Herculanum, où l'attendaient Turk. À propos de sa valise restée en arrière, une vive explication s'était élevée entre le commodore et le chef de garde Herculanum. Discussion dans laquelle Turk menaça d'introduire le dit chef, tout vivant, dans le foyer d'une de ses locomotives. Son maître l'avait calmé. Puis, profitant d'un train qui démarrait, il était venu faire en personne sa réclamation en gare de Saint-Louis. L'affaire s'arrangea sans peine, la valise serait redemandée par télégramme, et c'était au moment où Hodge Hurricane sortait du bureau pour retourner à Herculanum qu'avait eu lieu sa rencontre avec le chroniqueur. Au total, voyant son adversaire parti, Harwis T. Kimball ne s'occupa plus de cet incident. Il regagna l'European Hotel, où il était précisément descendu. Après son dîner, il fit une assez longue promenade à travers la ville, et au moment où il rentrait, on lui remit une lettre, arrivée d'Herculanum par le dernier train. Non, il fallait une cervelle chimiquement composée comme celle qui bouillait sous le crâne de Hodge Hurricane, pour que cet homme étonnant eût écrit pareil épître.
« Monsieur le quatrième partenaire, vous avez sans doute un revolver, comme moi j'ai le mien. Je prendrai demain matin, 7 heures, le train qui part d'Herculanum pour Saint-Louis. Je vous somme de prendre à la même heure le train qui part de Saint-Louis pour Herculanum. Cela ne changera rien, ni à votre itinéraire, ni au mien. Ces deux trains se croiseront à 7h17. Si vous n'êtes pas homme à bousculer les gens, à les insulter ensuite sans leur rendre raison, soyez à ce moment précis, seul, sur la passerelle arrière du dernier wagon qui précède le fourgon de bagages, comme je serai sur la passerelle arrière du dernier wagon de mon train. Il y aura là l'occasion d'échanger quelques balles. Commodore Hodge Hurricane.
Voilà l'homme, terrible toujours. Et encore n'avait-il rien dit à Turk, ni de cette querelle, ni de cette provocation, par crainte d'envenimer les choses. Mais pour trouver un adversaire digne de lui, il n'aurait pu mieux s'adresser qu'au chroniqueur de la tribune. Celui-ci fut à sa hauteur en cette circonstance.
« Eh bien, si ce marin d'eau salée s'imagine que je vais reculer, s'écria-t-il, il se trompe. Je serai alors dite sur ma passerelle, puisqu'il sera sur la sienne. Et le pavillon vert d'un journaliste ne s'abaissera pas devant le pavillon orangé d'un commodore. »
Que l'on veuille bien remarquer que rien de tout cela ne saurait étonner en cet étonnant pays d'Amérique. Donc, le lendemain, un peu avant 7 heures, Harwis T. Kimball descendit à la gare afin de prendre le train qui se dirigeait vers Columbus, à la frontière du Tennessee, en passant par Herculanum. Après avoir choisi sa place dans le dernier wagon, qui communiquait par une passerelle avec le fourgon de bagages, il s'y installa. 17 minutes devaient s'écouler avant qu'il eût à occuper son poste de combat. Le temps était frais, l'air vif, et personne, évidemment, ne serait tenté de se tenir au dehors pendant la marche du convoi. Le wagon occupé par Harwis T. Kimball ne contenait qu'une 12aine de voyageurs. Lorsque le reporter consulta sa montre pour la première fois, elle lui indiqua 7h05. Il n'avait donc plus que 12 minutes à attendre,
et il attendit avec un calme que son adversaire ne possédait sans doute pas. À 7h14, il se leva, vint se placer sur la passerelle, le revolver tiré hors du gousset du pantalon, les charges vérifiées, et il attendit encore. À 7h16, un roulement grandissant se fit entendre sur l'autre voie, par laquelle le train d'Herculanum venait à toute vapeur en sens inverse. Awiste Kimball releva le revolver à la hauteur de son front, prêt à l'abaisser horizontalement. Les locomotives se croiseront, laissant en arrière un tourbillon de vapeur blanche. Une demi-seconde après, deux détonations éclatèrent simultanément. Awiste Kimball sentit le vent d'une balle qui frôlait sa joue et à laquelle il avait répondu coup pour coup. Puis les deux trains se perdirent dans le lointain. Il ne faudrait pas croire que pour avoir entendu ces deux coups de feu, les voyageurs du wagon se fussent dérangés. Non, ce n'était pas pour les émouvoir. Aussi, Awiste Kimball vint-il tranquillement reprendre sa place, sans savoir si le Commodore avait été touché au vol. Et alors le voyage continua par Nashville, la capitale actuelle du Tennessee, sur la Cumberland River, cité industrielle et commerçante de 76 000 âmes, par Chattanooga, nom qui en langue cherokee signifie « nid de corbeau », un nid stratégique de premier ordre, à l'entrée des passes que Sherman parvint à franchir avec l'armée fédérale. Puis il se lança à travers cet état de Géorgie, auquel sa situation a valu d'être nommée « clé de voûte du Sud », comme la Pennsylvanie est nommée « clé de voûte du Nord ». Depuis la guerre de Sécession, c'est Atlanta qui est devenue capitale de la Géorgie, en souvenir de sa longue résistance. Située à plus de 150 toises d'altitude, à l'orée des gorges praticables des Appalaches, cette ville, en prospérité croissante, est la plus populeuse de l'État. Après avoir traversé la Géorgie jusqu'à la ville d'Augusta, sur la rivière Savannah, où fonctionnent d'importantes filatures de coton, le train traversa le territoire du South Carolina, fila par Hambourg, qui fait face à Augusta, et vint s'arrêter à son point terminus de Charleston. Ce fut à la date du 2 juin, dans la soirée, que le reporter atteignit cette ville fameuse, après un parcours d'environ 1500 milles depuis Santa Fe du New Mexico, voyage marqué par la rencontre avec Hodge Hurricane. Ce fut là d'ailleurs que les journaux l'informèrent du passage des deux inséparables, le Commodore et Turk, à Ogden dans la journée du 31 mai, se dirigeant à toute vapeur vers les lointaines régions de la Californie. « Ma foi, tout est au mieux, » se dit-il. « Je ne regrette point de l'avoir manqué. C'est un ours, et même un ours marin, mais un ours qui, en somme, a figure humaine. » Du reste, les journaux ne faisaient point allusion au duel en railboard, connu seulement de ceux qui y avaient joué un rôle. Et jamais, à moins que l'un d'eux n'en parlât, il est vrai, comptez sur la discrétion d'un fabricant de chroniques. C'est dans la Caroline du Sud, sur les îles de son littoral, que vinrent s'établir les premiers colons français. Si cet État n'occupe que le 29e rang au point de vue de la superficie, il ne compte pas moins de 1152 000 habitants. Il est riche par sa production de coton à longue soie, riche par ses récoltes de riz d'excellente qualité, riche par ses gisements de phosphate. Malheureusement, la guerre l'a fort éprouvé. Nombre de propriétaires ruinés durent vendre leurs terres qui glissèrent entre les mains des prêteurs juifs. On y rencontre un chiffre assez élevé de Français, descendants de ces Huguenots qui furent contraints de s'expatrier après la révocation de l'édit de Nantes. Mais, ainsi que le remarque Élisée Reclus, les noms de ces familles ont été anglicisés pour la plupart. Cet État, dont les Noirs formaient les 3/5, est cependant celui qui proclama avant tout autre l'acte de sécession, ne laissant à l'occupation fédérale en cette partie de l'Union que le fort Sumter,
près de Charleston. La capitale est Columbia, une jolie petite ville de 15 000 âmes, abritée sous les frondaisons des magnolias et des chênes. Beaufort, dans les Sea Islands, avec ses mouillages de Port-Royal, tient tête comme exportateur de coton et de riz à la métropole. Celle-ci est toujours la première cité du South Carolina, que représentent au Congrès 2 sénateurs et 6 députés, et qui possède 46 sénateurs et 124 députés dans sa propre assemblée législative. La Caroline du Sud est d'ailleurs le 29e État de l'Union, grâce à son étendue, et le 22e au point de vue de sa population. Accidentée dans sa portion méridionale par les dernières ramifications des montagnes bleues, il jouit d'un climat des plus sains et des plus tempérés. Son sol produit en abondance du froment, du chanvre, du tabac, qui vaut celui des campagnes virginiennes. Au centre, il est plus favorable à la culture du maïs, et dans le sud, aux récoltes du coton et du riz. En outre de l'exploitation de vastes forêts, l'industrie carolinienne trouve encore à s'alimenter aux mines de fer, de plomb, aux carrières de marbre, aux gisements d'or et d'ocre de la province. L'hiver, il y règne une douceur exceptionnelle, mais les chaleurs sont très fortes en juin. Dès le mois de février, la végétation commence à se renouveler et les bourgeons des érables montrent déjà la pointe de leurs fleurs rouges. Awist et Kimball ne connaissaient pas Charleston, qui mérita la fâcheuse réputation d'être considérée comme la métropole de l'esclavage. Au total, telle est sa vitalité que, malgré une série d'effroyables catastrophes, si éprouvée qu'elle ait été tant de fois par l'eau, par le feu, par les secousses sismiques et même par la fièvre jaune, elle a toujours résisté à ses multiples causes de destruction. C'est sur une basse presqu'île, entre les estuaires d'Ashley et de Cooper, formant Rade, avec un vaste port desservi par deux passes, entre les promenades et les quais, que Charleston étale ses quartiers commerçants, ses maisons à véranda, avec façades ombragées de magnolia, de grenadier et d'azerada, en pleine verdure. Un peu en dehors, sur les îlots et les pointes, s'élèvent des forts, entre autres le Fort Moultrie, qui est l'un des arsenaux de l'Union et du South Carolina. Toujours le Benjamin de la chance, ce chroniqueur en chef de la tribune. Aucune inondation, aucun incendie, aucun tremblement de terre ne désolait Charleston lorsqu'il y arriva, ni même aucune épidémie de vomito negro. Cette cité, si connue, si appréciée pour l'urbanité de ses mœurs, la politesse de ses habitants, put donc lui apparaître dans toute sa splendeur. Il ne devait jamais s'effacer de son souvenir les quelques jours que sa bonne fortune lui permit d'y séjourner. Dire que Awist et Quimball fut reçu avec enthousiasme, ce serait insuffisant. Il s'y joignit une sorte de délire pour le partenaire en qui la cité voyait le plus qualifié des sept. Les autres ne comptaient même pas. Pour les Charlestoniens, il n'y en avait qu'un, celui que le point de 10 venait de leur envoyer. Quant aux millions de feux hyperbones, c'est comme s'il les portait déjà dans son sac de voyage. Pendant 48 heures, affluèrent donc invitation sur invitation, auxquelles le populaire reporter ne put se refuser, non plus qu'aux promenades à travers la campagne environnante où les orangers poussent en pleine terre. Sur tous les murs, couverts d'affiches tire-l'œil, le nom de Awist et Kimball figurait en lettres éclatantes et le soir, en caractères électriquement reproduits. Un hôte si bien accueilli contractait envers la cité une forte dette de reconnaissance. Aussi son intention, s'il gagnait la partie, il le déclara, était-elle de fonder à Charleston un hospice pour les pauvres gens sans famille. Et, ce qui est à noter, c'est que nombre de miséreux vinrent se faire inscrire à la municipalité afin de s'assurer les premières places dans cet établissement de charité.
On le voit, le futur gagnant se montrait encore plus généreux à Charleston de la Caroline du Sud qu'à Denver du Colorado. Enfin, au milieu de toutes ces fêtes, arriva le soir du 3 juin. Un splendide banquet avait été organisé par souscription. Il aurait lieu sous de magnifiques ombrages, un peu en dehors de la ville, du côté de l'estuaire d'Ashley. La foule des invités s'y rendit processionnellement, bannières déployées aux couleurs du héros de ce jour. Il n'y a pas lieu d'insister sur ce que fut cette réunion épulatoire, dont il serait impossible d'ailleurs de donner une idée, ni pour les recherches du menu, ni pour le faste du service. Qu'il suffise de savoir que la pièce principale fut un pâté monstre, pesant 8 000 livres, cuit dans un four gigantesque, et qu'un char attelé de 12 chevaux amena au lieu du festin. Dans la confection de ce pâté, il entrait 2 400 livres de bœuf, 400 livres de veau, 400 livres de mouton, 560 livres de porc, 120 livres de beurre, 360 livres de lard, 76 lapins, 188 poulets, 200 pigeons, 2 800 livres de farine, 240 pièces de gibier. Ce monstrueux comestible mesurait 14 pieds de largeur, 24 de longueur, 6 de hauteur. C'est avec des couteaux longs de 5 pieds que 20 maîtres d'hôtel le débitèrent de manière à satisfaire plusieurs milliers de personnes, qui, d'ailleurs, eurent encore à leur disposition 5 000 de saucisses. Et alors retentirent des acclamations que la brise d'ouest emporta vers la pleine mer. « Hurrah pour Awiste Kimball ! Hurrah pour le 4e partant ! Hurrah pour le pavillon vert ! Hurrah pour le grand favori du match Hyperbole !»